Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'émission Interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tan Nguyen.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et vous êtes ici parce que vous avez donné deux conférences simultanément à Valence et à Eure du fait de votre statut d'ingénieur.
Oui.
Et vous prenez avant tout, d'ailleurs, je ne suis pas attardé, mais c'était quelle thématique, votre conférence ?
Alors, en fait, j'étais déjà venue plusieurs fois à Valence l'année dernière pour les travaux qui m'occupent, qui sont, on va dire, des sujets de développement durable et de, je dirais, tout ce qui tourne autour de l'écologie, mais également des modèles économiques peut-être plus équitables et plus durables. Voilà, et donc j'étais venue l'année dernière une première fois. Et je suis revenue donc trois fois depuis, même quatre fois en fait. Et là, hier, donc, je suis revenue retrouver donc les gens qui m'avaient invité l'année dernière pour présenter mes derniers travaux, qui sont le Manifeste du crapaud fou, un ouvrage qui vient de sortir.
Voilà, c'est votre second ouvrage, hein, je crois.
Alors, j'en ai plusieurs, mais on va dire les deux plus importants sont sans doute le premier qui s'appelait « Des abeilles et des hommes », qui raconte un petit peu ma trajectoire et les travaux qu'on a fait dans ce domaine, avec à l'époque Nicolas Hulot en 2010, et aux éditions Bayard. Et le deuxième qui vient de sortir en octobre, qui s'appelle « Le manifeste donc, du crapaud fou », avec Cédric Villani aux éditions Massot, et qui parle d'un sujet un petit peu différent, qui est peut-être, on va dire, plus ouvert au grand public, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui pour nous préparer à ce nouveau monde qui arrive, avec la déferlante de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'information, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui ? Ça s'adresse à tout le monde, cette question ?
Oui, c'est vraiment l'idée que, si vous voulez, quand vous prenez le sujet du durable ou de l'écologie, vous parlez toujours au même. C'est toujours les 5% de gens convaincus. Et puis en gros, 90% des gens se disent « c'est pas pour moi, c'est trop bobo, c'est trop cher, j'ai pas le temps » ou « c'est trop compliqué, ça me dépasse ». Et nous, on s'était dit avec Cédric, à l'époque, c'était il y a un an quand on a commencé, on s'était dit « comment faire pour toucher les 90% restants et faire que ce ne soit plus le problème des autres, mais aussi le mien ?» Et on est persuadé, nous, que le problème est important. Donc on s'était dit à l'époque, comment finalement toucher tout le monde sans non plus décourager. Donc on en a marre des rapports catastrophistes et tout ça. Et c'est là qu'en réfléchissant, on s'est dit, il faut faire différemment. Et lui, en tant que grand scientifique, donc c'est lui qui a eu cette médaille Fields, qui est comme le prix Nobel de mathématiques en 2010. Il a donc accès aux grands scientifiques et au cerveau de la planète. Et ça remonte jusqu'à pas mal de grands décideurs, etc. Bon. Et il s'est dit, lui, je peux t'ouvrir la télé, faire un grand coup médiatique. Et puis toi, comme tu as depuis longtemps travaillé dans des projets concrets de terrain qui emmènent les gens de là où ils sont vers des solutions pratiques, est-ce qu'on peut faire les deux ensemble, en tandem, pour emmener plus de gens avec nous dans la démarche pour se mobiliser ?
Alors, je reviens un petit peu comme ça. Vous parliez de 95% de la population qui ne se sont pas forcément concernés par ces démarches. Mais vous, justement, en l'an 2000, après votre formation d'ingénieur, est-ce que vous vous êtes senti dans cette catégorie et qu'il fallait en sortir ?
Alors, effectivement, si on regarde ma trajectoire, il y a eu effectivement une rupture en 2000. Alors moi, pour me décrire, j'ai 51 ans et en fait, j'ai d'abord eu une première partie de ma vie qui était complètement dans le business, puisque j'ai fait, après l'école des mines, j'ai rejoint un grand cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey et j'ai été la première femme élue partenaire à 30 ans. C'est-à-dire que j'avais des responsabilités très importantes pour quelqu'un de cet âge-là. C'est-à-dire qu'on brassait parfois des milliards en une nuit et on se retrouvait à diriger des boîtes qui comptaient des centaines de milliers de personnes. Et j'avais même pas 22, 23 ans. Donc au bout de, on va dire, 13 ans, 15 ans de ça, j'en ai eu marre. Et donc c'était en l'an 2002. J'avais 36 ans, j'ai décidé de faire autre chose. Et c'est là qu'effectivement j'ai fait un virage. Je me suis dit, après tout, avec toutes les compétences que j'ai acquises et d'une certaine façon, ces chances que j'ai eues, est-ce que je peux pas me tourner vers les autres, ceux qui ont moins reçu, et les aider à faire un peu différemment ? Et là, je me suis intéressée aux ONG. Je suis tombée dans ce qui était à l'époque tous ces gens qui travaillaient sur le développement dit durable, mais j'aime pas le terme, je trouve que ça veut dire n'importe quoi. Et c'était donc un peu cette idée de trouver des alternatives, je dirais, au modèle dominant qui, à mes yeux, allait dans le mur. Ça, c'était 2002. Et effectivement, à ce moment-là, je suis partie dans autre chose. Et c'est ainsi que j'ai commencé à accompagner des gens qui étaient dans ces idées d'autres modes de vie. Et puis, je suis tombée également sur les gens qui travaillaient sur la technologie collaborative, donc le libre, l'open source. Donc, cette idée qu'on peut ouvrir des logiciels et les donner à tout le monde gratuitement, comme Linux. Et c'est cette idée qui m'a motivée en 2002 de marier les deux. De dire, après tout, si j'arrive à partager librement des logiciels libres sur Internet, pourquoi je ne peux pas partager librement des choses qui aideront les gens à mieux vivre? Donc, si vous voulez, quand j'ai commencé en 2002, voilà, c'était un peu utopique. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît Wikipédia. Tout le monde connaît Vlib, par exemple, ou Autolib. Tout ça, c'est cette idée de partager des choses.
Vous parliez de Linux avec, pour ma part, je dirais qu'il y a une problématique, c'est la diversité des systèmes proposés dans Linux et ça manque, je dirais, d'uniformité ou d'unité par rapport à des systèmes d'un système à l'autre Linux. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut comparer ça aussi avec le mouvement d'alternance qui souhaiterait aussi modifier les modes de vie, par exemple?
On ne peut pas vraiment dire ça, c'est-à-dire que Linux c'est vraiment le kernel, comme on dit, le système d'exploitation central au départ c'est vraiment le même. Après on a mis des distributions dessus, donc c'est l'habillage final, la partie ergonomique, celle que l'utilisateur final va voir, qui est un peu différente, mais au cœur Linux c'est la même chose. Après la distribution Debian versus Ubuntu, bon, c'est des trucs qui sont un peu différents, plus ou moins faciles à s'approprier, etc. Mais sur le fond Linux c'est vraiment un système qui donc par contre lui fait opposition à Windows. Donc c'est sûr que quand vous êtes sur Linux, vous êtes en train de diverger par rapport à Microsoft, de la même manière que les mouvements alter que vous mentionnez divergent par rapport au modèle consommateur classique, etc.
C'est aussi un autre langage, complètement aussi. Il y a le langage Windows et le langage Linux. C'est un peu une métaphore, hein, je veux vous venir par rapport à la démarche aussi sur laquelle vous travaillez. Est-ce que vous remédiez justement à ce cas de figure d'essayer de rassembler du monde autour d'une idée et d'y trouver aussi un langage commun?
Tout à fait, ouais. Si vous voulez, l'analogie qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le code source. Le code source, c'est ce qui fait tourner la machine. Donc, c'est des instructions, on va dire, en programmation, c'est du 0, 1, etc. Donc, c'est assez compliqué pour les profanes. Mais en gros, vous donnez une ligne de code et la machine fait ce que vous lui demandez. Et nous, on s'est dit, est-ce que je pourrais trouver le code source des modes de vie durables de manière à ce que quand on a fait un truc qui marche, par exemple, un éco-quartier ou, je ne sais pas, bon, les AMAP ou n'importe quoi, une fois que je l'ai fait, que ça a marché, je prends le code source, je l'écris et ensuite, je le donne à tout le monde. Et donc, pour que ça marche, il y a deux conditions. Il faut d'une part avoir fait une expérimentation et avoir réussi à écrire ce code source. Et la seconde, c'est ensuite d'avoir une communauté, et ça c'est le plus difficile, de gens qui vont comprendre ce qu'il y a dedans et qui vont vouloir le mettre en œuvre pour le passer aux autres. Alors si je prends un exemple que j'aime bien, c'est celui de Los Angeles, qui est la ville du Nord-Pas-de-Calais, où j'ai commencé à faire, on va dire, Wikipédia appliquée à une ville qui voulait devenir durable. Donc c'est une ville dans le Nord-Pas-de-Calais qui a 7500 habitants. Et qui était vraiment au bord du désastre, extrêmement pauvre, plein de problèmes avec la mine, donc 200 000 emplois qui avaient disparu de la région quand les charbonnages sont partis. Donc il fallait tout réinventer, avec plein de problèmes de santé à cause de la mine, et puis des gens qui n'étaient pas du tout habitués à se prendre en main. Et donc avec le maire, quand il a vu ce que j'avais fait sur cette idée de Wikipédia, et d'autres écoquartiers que j'avais accompagnés à Londres, il m'a dit, c'est Jean-François Caron, il m'a dit, est-ce que tu peux faire la même chose sur Los Angeles, et ensemble, on va écrire ces codes sources, et moi, je te fournis le laboratoire vivant, et ensuite, on va trouver ensemble des gens qui vont nous aider à documenter ce qui s'est fait pour le passer aux autres. Et il m'a dit une fois, il a vraiment compris le truc, il m'a dit, si c'est juste Los Angeles, ça n'a aucun intérêt. C'est pas 7500 habitants qui vont changer la planète. Mais si on fait boule de neige, alors c'est gagné. Et donc à partir de là, c'était en 2002, c'est le premier projet concret que j'ai rentré dans une méthode de type open source, et on a commencé à écrire les codes sources. Donc je ne les ai pas écrits seuls, évidemment. J'ai fait ça avec des tas de gens, d'une part les habitants, beaucoup les services, et puis des partenaires, aussi bien des fondations que des entreprises, que des éco-constructeurs, etc. Et puis par ailleurs, moi j'emmenais des étudiants qui travaillaient avec moi, ou des économistes, et des gens qui étaient capables d'expliquer et de rendre crédible ce qui s'y était fait. Parce que vous savez, pour faire passer des choses, l'une des plus grandes difficultés, je pense, c'est que les gens comprennent l'intérêt pour eux. Donc il faut au départ intéresser, donc il faut une histoire, raconter une histoire qui soit attrayante. Et après, il faut des gens qui soient là, qui accueillent les personnes qui viennent poser des questions. Et puis ensuite, on commence à tester ensemble, bricoler un petit peu. Puis petit à petit, la personne prend confiance, ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce processus apprenant qui est intéressant sur, je dirais, l'histoire du code source appliqué à une ville pilote.
Alors, depuis cette expérience, vous avez pu aussi élargir un peu ce domaine?
Oui, donc après, il y a eu, après les écoquartiers, donc les modes de vie durables, donc la ville durable dans toutes ses dimensions. Après, il y a eu l'arrivée des Fab Labs et des Makers. Donc les Fab Labs, c'est ces endroits où vous avez des imprimantes 3D, des appareils un petit peu compliqués, qui sont en libre service pour les gens qui veulent venir apprendre. Vous payez un petit peu, dans certains cas, pour pouvoir utiliser la machine. Mais le plus intéressant, c'est que vous rencontrez des gens dans le Fab Lab qui vont vous montrer comment faire des choses avec cette machine. Et les Makers, ce sont les gens qui, justement, fabriquent des objets à partir de ce genre d'installation. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a des gens qui fabriquent des tracteurs, des voitures. Voilà, on peut presque tout. Alors, pas une navette spatiale, évidemment, mais on peut fabriquer comme pas mal de choses aujourd'hui avec cet esprit. Et l'intérêt, c'est que les recettes, les didacticiels, les manières d'expliquer les choses, quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez le passer à tout le monde, puisque vous avez compris le truc. Donc c'est comme, je dis souvent, le théorème de Pythagore est gratuit, il est open source. Par contre, vous pouvez très bien payer le prof de maths qui va montrer à votre gamin comment faire le théorème de Pythagore. Et donc l'histoire des makers et des Fab Labs, c'est la même chose. C'est, vous avez des gens qui ont fabriqué quelque chose, qui sont prêts à vous filer les codes, et par contre, vous les aidez, vous les payez un petit peu pour qu'ils vous aident à monter sur le cheval. Voilà.
Une rétribution, en quelque sorte, d'un travail et d'un échange. Enfin, ce n'est pas un échange, on ne peut pas parler de don non plus. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un peu comme au chapeau, je dirais. C'est-à-dire que si vous avez des moyens, vous êtes une fondation, vous avez plein de sous, bah, j'aurais tendance à dire que ce serait bien que les fondations financent les gens qui développent les codes sources. C'est ce qu'ont fait certaines grandes boîtes, comme Oracle ou même IBM, qui ont financé Linux en partie, au départ. Et de la même manière, quand vous n'avez pas d'argent, bah, vous n'allez pas payer. Par contre, si vous avez un petit peu d'argent, vous donnez ce que vous pouvez. 3 euros, 4 euros, 10 euros, voilà. L'idée, c'est que les personnes qui ont contribué au départ ont quand même des frais pour fonctionner. Donc c'est bien que la communauté s'arrange pour que ces développeurs initiaux puissent continuer à vivre. Donc là, l'économie est une économie différente. Vous ne payez pas parce que c'est fermé, vous avez un ticket d'entrée comme un péage. C'est qu'après, vous vous débrouillez pour que l'infrastructure collective puisse continuer. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail de partage. Donc c'est vraiment ça qui m'a occupé pendant 10 ou 15 ans, de vraiment ouvrir tout ce que je pouvais avec les codes sources. Et après, on est arrivé donc au manifeste du crapaud fou, qui était l'étape d'après, pour essayer d'impliquer tout le monde dans une démarche positive, sans forcément aller jusqu'à pousser à la porte du Fab Lab et des makers.
Et puis on peut peut-être aborder l'économie solidaire. Est-ce qu'il y a une partie prenante vers cette démarche aussi ?
Une partie provenante, vous voulez dire, est-ce que moi je m'en suis occupée ou...
De vous et des personnes qui sont autour de vous, qui sont avec vous.
Oui, alors moi c'est sûr, dans les gens avec qui j'ai travaillé, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'ESS, pour faire court, économie sociale et solidaire. J'ai notamment, à une époque, bossé pas mal avec les EDUXP et des gens qui s'occupaient des personnes en difficulté, parce que je trouvais ça normal de les aider aussi. Et puis ensuite, on a travaillé également avec l'idée des tiers-lieux, de trouver une manière d'attirer des publics un peu moins favorisés vers des lieux d'échange de la connaissance. On a fait un projet comme ça qui s'appelait Movilab pour faciliter la montée en puissance de ces lieux qui étaient des lieux d'échange de savoir, etc. Et puis donc il y a des groupes les plus connus comme on va dire le groupe SOS hein, qui est dans l'ESS ou le Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs de proximité. Donc oui, j'ai bossé avec pas mal de monde et j'ai pas dit que sur mes 15 ans maintenant, 2002 ça fait 15 ans, j'ai accompagné beaucoup de petites structures qui étaient naissantes, qui avaient une idée mais qui ne savaient pas comment monter le projet pour arriver jusque-là. Par exemple, Ticket for Change, on peut dire que c'est de l'ESS. C'est un groupe de jeunes qui ont décidé de provoquer le déclic pour que les gens deviennent entrepreneurs sociaux. Donc ça, typiquement, c'est un jeune qui s'appelle Mathieu Dardaillon. Il était avec moi à HEC, c'était un de mes étudiants, et il a eu cette idée, je trouve assez géniale, de se dire, plutôt que de faire une start-up pour ma pomme seulement, je vais faire une start-up qui va aider les autres à faire des start-up. Et quand il dit start-up, c'est pas au sens Silicon Valley techno, c'est au sens initiative, ça peut être la ruche qui dit oui, ça peut être Blablacar, enfin des choses qui sont utiles pour la société. Voilà.
On va revenir un peu à vous. Donc vous avez eu vos études sur d'ingénierie et puis ensuite comme vous l'avez écrit à un moment donné, vous avez tourné la page. Quel a été ce déclic en vous qui vous a fait tourner cette page ?
Alors c'est arrivé vers les années 2000-2002, donc j'ai raconté ça dans un TED Talk. Un TED, c'est une vidéo, vous savez, qui est faite de manière très pro, par des grandes boîtes et tout ça, et ça permet de faire passer le message à beaucoup de gens. Et je me suis prêtée au jeu. Et donc l'histoire que j'ai racontée, qui est un petit peu améliorée, mais on va dire la réalité, c'est qu'en gros, j'en pouvais plus. À ce moment-là, j'avais 36 ans. Je me souviens que j'avais calculé, je faisais le tour de la planète en termes de kilomètres, pratiquement une fois par mois. Je dormais chez moi une fois par mois maximum, et le reste du temps, grands hôtels, business class ou première classe, la douche dans l'aéroport, et direct, on enchaîne les rendez-vous et les continents, quoi. Donc j'en ai eu marre, et à ce moment-là, ma mère est tombée très malade, et subitement, on m'a dit qu'elle allait mourir dans les 2 mois. Donc évidemment, pour moi, tout d'un coup, le sens n'était plus là. Je me suis dit, cette vie n'a aucun sens, il faut que j'arrête ça. Donc j'ai décroché. Je n'ai pas réussi à décrocher tout de suite, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au début, je pensais m'arrêter pour 2 ans, faire un sabbatique. Et en fin de compte, j'ai arrêté depuis 2002 jusqu'à la fin. Je vais plus recommencer à travailler comme avant. Et c'est à ce moment-là que m'est arrivée cette évidence, quoi. Qu'avec tout ce que j'avais reçu, il fallait maintenant que je travaille sur la transmission et que je travaille sur ceux qui faisaient du bien dans la société parce que j'avais des compétences qui n'étaient pas au bon endroit. Voilà, c'est comme ça que la conversion s'est faite.
On peut peut-être aborder l'argent aussi. Quelle est la place de l'argent dans ces démarches? Est-ce qu'il y a un prétexte par rapport à l'argent?
Un prétexte pour moi ou en
général? Pour votre démarche et pour vous aussi.
Ouais. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y avait dans chez moi une intime conviction que l'argent n'est évidemment pas une finalité, c'est un moyen. Mais également, une deuxième conviction, c'est que l'argent est mal distribué, donc ça fait qu'il y a des gens qui en manquent cruellement et d'autres qui en ont beaucoup trop. Donc partant de ces deux constats très simples, je me suis dit comment rééquilibrer un peu les choses pour que finalement, à la limite, ceux qui en ont souvent trop ne sont pas forcément très heureux. Et ceux qui n'en ont pas assez, c'est clair qu'ils ne sont pas heureux. Donc c'est un peu un problème d'épanouissement personnel au final. Donc je me suis dit comment faire pour trouver des gens qui ont peut-être le courage de ramer un peu plus que les autres, avec moins d'argent, pour essayer de trouver des solutions qui soient partageables avec tout le monde. Et le premier qui a commencé à faire ça, c'est Socrate. C'est lui qui a dit « je vais enseigner à tout le monde d'apprendre à apprendre dans la rue » et qui a dit « voilà, tout le monde a accès à la connaissance, il n'y a pas de raison que ce soit que les riches qui puissent se payer des professeurs ». Et partant de cette démarche-là, je me suis dit « après tout, l'argent, c'est finalement un prétexte pour ne pas faire les bonnes choses ». Donc s'il y en a qui n'ont pas assez, il faut qu'on aille le chercher pour leur donner les moyens de faire des choses et notamment d'apprendre. Il vaut mieux apprendre à pêcher, par exemple, que de donner le poisson. C'est bien connu, cette affaire-là. Et donc, c'est ça que j'ai voulu faire par rapport à l'argent. C'est enlever le mythe que l'argent rend le bonheur et ensuite trouver quand même une manière de compenser pour que ceux qui n'en ont pas assez puissent quand même vivre décemment pour ensuite s'occuper d'autres choses dans leur vie. Moi, le but, je pense, des gens, c'est pas de gagner de l'argent. C'est quand même de trouver un équilibre de vie qui soit bon. Et très souvent, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas de vie non plus. Moi, je l'ai vu chez McKinsey. On travaille comme des malades. Moi, je travaillais de 6h du matin jusqu'à 1h du matin. Non-stop, avec des pauses d'un quart d'heure parfois seulement. Mais c'était même pas la boîte qui me l'imposait, c'était la compétition, la peur de rater. Et j'en connais des tas qui ont fait des burn-out avec ça. Donc ça peut sembler bizarre de se plaindre d'être trop riche, de travailler trop, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont englués là-dedans. Et de l'autre côté, je vois tous les gens qui n'ont pas assez d'argent. Là, il y en a un paquet, mais qui passent trop de temps à penser que c'est l'argent qui résoudrait leurs problèmes. Donc je pense qu'il y a vraiment un mythe sur l'argent qu'il faut vraiment corriger.
On va parler aussi de l'institut que vous avez créé, Ingenius. Il consistait en quoi, cet institut? Il existe toujours?
Il existe toujours. En fait, c'est simplement ce que j'ai fait en 2002 quand j'ai décidé de me mettre au service de l'intérêt général. Ce que j'ai raconté là, quand j'ai voulu mettre le partage des idées et tous ces modes de vie durables. Donc ça, c'était ce que j'ai appelé Ingenius. C'est une association, loi 1901, dans laquelle il n'y avait que moi comme bénévole et puis d'autres, notamment la personne qui m'a formé au Libre, qui s'appelle Mose, qui est actuellement en Chine. Et c'est lui qui m'a mis le pied au wiki, etc. Et c'est grâce à lui qu'on a eu cette idée vraiment folle à l'époque de marier le libre et le durable. Donc c'est ça Ingenius au départ. Il y avait dans le conseil scientifique beaucoup de gens très calés qui voulaient aussi œuvrer pour l'intérêt général, mais pas que, il y avait aussi des chefs d'entreprise, des penseurs, etc. Et c'était vraiment cette idée de faire le mieux pour la société par la connaissance.
Everything is in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life,
réfléchissez aussi à une visibilité de votre activité au, à l'adresse du public et du grand public même, pour justement amorcer cette expérimentation, ou voir comment dire, une nouvelle, amener une nouvelle vision du monde.
Alors c'est là qu'on arrive au manifeste du crapaud fou, parce que jusque là, si vous voulez, j'ai travaillé avec ce que j'appelle les TLM, toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes que vous voyez dans les réunions publiques et tout ça. Donc c'était, quand j'ai commencé en 2000, c'était surtout l'écologie. Donc c'était Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, Philippe Desbrosses et tous ces gens-là. Et les luttes étaient très souvent liées à l'agriculture, Monsanto, Exxon, etc. Et donc cette partie-là, c'était, je dirais, ce que j'ai rappelé grossièrement, on va dire, Ingénus. Voilà. Après, à partir de là, une fois que j'ai bien arpenté tous les domaines du durable, des éco-quartiers, des Fab Labs et tout ça, j'ai ressenti à partir de 2014 le besoin de passer à une autre dimension qui était plus dans les médias, d'où les premiers TED Talk, qui sont ces vidéos très virales. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les premiers, je dirais, médias responsables. Il y en avait un peu partout, même dans les grandes télés. Et je sentais qu'on n'arrivait pas à mettre en face l'aspect diffusion virale qu'on trouve à la télévision ou à YouTube, sur Internet, et de l'autre côté, tous ces gens qui faisaient des bonnes choses. Donc je me suis dit, il faut trouver une manière d'ouvrir ce truc-là. Et l'idée du crapaud fou est arrivée pile il y a un an. J'étais avec Cédric Villani, donc c'était un ami mathématicien, donc prix Nobel de mathématiques, enfin ça s'appelle la médaille Fields, exactement. Et lui, il s'occupait, je l'aidais en fait, sur une association qui s'occupe de handicapés par la musique et la technologie. Et ce projet m'intéressait parce qu'il y avait un croisement d'un truc assez sympa, très visionnaire de la techno, avec des instruments très étranges qui s'appellent des Omni, objets musicaux non identifiés, et qui permet de faire jouer des handicapés avec des instruments vraiment étonnants. Ça ressemble à des espèces de grosses soucoupes volantes de toutes les couleurs. Et quand vous tapez dessus, ça fait de la musique. Il y a 108 touches et vous pouvez vraiment produire une musique extraordinaire. Et quand j'ai vu ce projet et qu'avec 1000 ateliers, ils avaient vraiment réussi à sortir plein de personnes handicapées de leur isolement, des gens très lourdement handicapés parfois, des polyhandicapés, des autistes, des trisomiques, je me suis dit, il faut que j'aide Cédric. Et donc à ce moment-là, on a fait un grand débat à la Maison des Métallos à Paris. C'était en octobre 2016. Et on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui est venu et on a présenté nos travaux. Et ça allait depuis les parents de handicapés jusqu'à des grands techniciens qui faisaient des trucs au CNRS, des gens qui faisaient des trucs à l'IRCAM. Enfin, on avait toute une diversité d'acteurs. Et c'était un grand succès. Et puis du coup, quelqu'un est venu me voir à la sortie en disant « Vous êtes un sacré tandem tous les deux. » Avec le mathématicien, avec sa lavalière et son araignée, qui est haut perché dans les idées. Et puis toi, qui fais tous ces trucs de terrain avec Wikipédia, etc., etc. Est-ce que tu ne voudrais pas faire un tandem ? Parce que vous passez bien à l'antenne et vous pourriez vraiment faire bouger les choses. Donc le lendemain, en Seattle, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et Cédric me dit, bah, Tan, t'es gonflé, toi, tu me demandes d'aider à changer le monde, mais j'en sais rien, moi, comment est-ce qu'on fait ça ? Et donc on a commencé à réfléchir et tout. Et puis il m'a dit, bah, en fait, la question est mal posée. Tu vois bien que tout ça va pas bien, il y a une crise partout, politique, économique, écologique, tout ce que tu veux. Et malgré tout, on continue à ramer, ça avance pas, le GIEC, la COP21, ça suffit pas. Et donc on s'est dit, on va changer complètement le fusil d'épaule. On va dire, après tout, c'est parce que les gens se disent, c'est pas mon problème que ça marche pas. Donc comment on fait pour que les gens se disent, moi aussi je suis concerné? Et on s'est dit, voilà, on va frapper un coup médiatique. Cédric, avec sa célébrité dans les médias et son image de scientifique, se chargeaient d'aller me chercher les grands noms de la planète, 30 grands noms, Nobel, machin, chef d'entreprise aussi, tout ça, et puis même des, s'il le fallait, il avait même des contacts avec le pape, enfin l'Académie pontificale. Donc il me dit, moi je te trouve des gens qui correspondent à ce qu'on veut faire, et puis toi, de l'autre côté, tu te charges d'aller chercher les gens sur le terrain, avec ces nouvelles façons de faire, et on met tout ça ensemble. On fait à nouveau une sorte de tunnel de compression, comme, si je puis dire, comme une accélération pour aller plus vite vers la solution. Voilà, et c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée du crapaud fou. Parce que le crapaud fou, dans l'histoire, c'est dans la nature, vous savez, les crapauds, ils traversent la route. Enfin, ils vont chaque année migrer pour se reproduire dans une autre mare. Mais comme ils ont un instinct grégaire, ils vont tous en même temps dans le même sens. Donc si par malheur, il y a un train ou une route qui a été mise sur le chemin, ils se font tous écrabouiller. Et donc les écologistes ont demandé à ce qu'il y ait un crapauduc, donc un tunnel sous la route, pour qu'ils puissent échapper au massacre. Et la question, évidemment, c'est qui sont les crapauds bizarres, un peu fous, qui passent en dessous, et pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, la posture du crapaud fou, c'est le déviant qui va sauver l'espèce. Et donc, avec Cédric, on est parti à la fin de l'année dernière, avec cette idée, on va essayer de trouver une manière d'alerter les gens, de faire un grand coup médiatique pour que les gens comprennent l'importance de cette question, et qu'ensuite chacun puisse faire un petit pas, quel qu'il soit, vers ce nouveau monde qui arrive. C'était ça l'idée au départ du manifeste.
Vous parlez du crapaud fou, comment peut-on le définir par rapport à la normalité, je dirais ?
Oui, alors comme je vous l'ai dit déjà, l'idée au départ, c'est que c'est le déviant qui va sauver l'espèce, notamment quand il y a un gros changement climatique ou beaucoup de dangers. On sait que la majorité va dans le mur, donc c'est ceux qui vont faire le pas dans l'autre sens qui vont éventuellement sauver donc l'espèce. Ça, c'est pour les animaux. Dans l'espèce humaine, les grands inventeurs sont souvent des gens qui ont fait un pas dans l'autre sens. On peut penser à Christophe Colomb qui est parti à l'ouest pour trouver les Indes. On peut penser aussi à Darwin qui était en fait géologue. Mais au-delà de ça, c'était cette idée que la norme, en fait, c'est une norme, c'est par exemple, on vous dit le QI de 100, c'est quoi ? C'est que vous avez un QI normal. Et quand vous avez 150, vous êtes super intelligent, donc vous êtes anormal. Et quand vous êtes à 70, vous êtes anormal parce que vous êtes en gros taré. Donc nous, on s'est dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est tous les gens qui font différent, ils vont avoir une valeur pour l'espèce, puisque la norme va dans le mur. Donc on a commencé à dire, on n'est pas anormal, on est simplement hors norme. Donc l'idée du crapaud fou, c'est de dire, on a besoin de cette diversité, de ces gens qui voient les choses différemment, parce que aussi bien les super brillants que les, entre guillemets, sous-doués, sont capables de voir les choses avec d'autres lunettes que ces gens qui font comme tout le monde. Et donc, dans les crapauds, il y a des gens qui travaillent sur les autistes, notamment depuis cette histoire de musique dont je vous ai parlé. Fabienne Casellis, en l'occurrence, une chercheuse qui travaille sur cette question. Elle-même connaît très bien la question, parce qu'elle a le syndrome d'Asperger et elle a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et donc, on s'est dit, il faut montrer que les gens des deux côtés de la courbe apportent de la valeur. Et c'est ce qui est à l'entrée du manifeste du crapaud fou, c'est qu'on dit que pour s'en sortir, face à l'urgence, il faut vraiment valoriser la diversité des intelligences, que ce soit les surdoués ou les sous-doués, c'est parce qu'ils ont un regard différent par rapport à cette norme qui va dans le mur qu'on va y arriver. Et après, je rajoute que c'est pas que le QI. Pour moi, l'intelligence, c'est bien sûr aussi le quotient émotionnel, mais il y a plein de formes d'intelligence. Vous pouvez avoir une intelligence spatiale. Par exemple, on sait que les pilotes de Formule 1 sont des gens qui vont faire une fois le circuit, et dans leur tête, ils vont mémoriser les virages et les tournants à gauche, droite, machin, etc. C'est une intelligence spéciale pour faire ça. Il y a aussi des gens qui ont une intelligence kinesthésique. Ils vont toucher des corps, sentir des choses, etc. Donc il y a autant de formes d'intelligence qu'il y a de formes d'expression. Et donc nous, on dit qu'il faut valoriser tous ces gens qui sont différents, parce que c'est eux qui peuvent trouver les tunnels.
C'est un vaste domaine en tout cas. Et une question par rapport à vous, vous utilisez vous-même les mathématiques ?
Pas directement, non, même plus du tout. En fait, les maths, quand j'étais à l'école, ça m'amusait plutôt pour le côté de représentation abstraite. Ce que j'aime dans les maths, c'est plutôt l'idée qu'il y a des lois fondamentales qui pourraient régir la planète. Et si vous regardez bien, les Grecs, il y a 2500 ans, avaient démontré que la Terre était ronde. Ils avaient calculé à 0,1% près le diamètre de la Terre. C'est remarquable, c'est des mathématiques. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la société du code qui est la nôtre, tous les algorithmes reposent sur des mathématiques. Donc ça veut dire que si vous connaissez les mathématiques, vous êtes le roi du monde numérique aujourd'hui. Et donc on va en arriver du coup au contenu du manifeste. Si les mathématiques m'intéressent, c'est plutôt pour cette dimension qui est dans un monde numérique. Vous ne pouvez pas faire sans les gens qui font des maths, parce que c'est ces gens-là qui font les codes, qui font Linux, qui font les machines, et qui font Google, et qui font toutes ces choses-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, les mathématiques sont devenues un petit peu la science maîtresse, reine de l'univers, hein, quelque part, parce que même la chimie, même la physique, même toutes les autres sciences s'appuient sur des mathématiques. Donc je sais pas si, j'espère qu'on parlera un petit peu du contenu du manifeste après, mais vous verrez que dedans, il y a vraiment, les mathématiques sont une manière de se représenter le monde qui permet au moins d'avoir un langage commun qui est indiscutable, parce que 1 plus 1, même si 3 me dit le contraire, ça fait 2.
Il y a une question que je me pose. Votre regard sur le numérique au niveau mondial, puisque vous côtoyez beaucoup de sommités, quelle est votre vision du numérique aujourd'hui? Et si on peut le considérer par métaphore comme un être, il en est à quel stade?
Alors justement, c'est ça l'un des sujets du manifeste. Donc pour répondre directement à votre question, c'est, pour moi le numérique c'est une technologie. Une technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui détermine sa valeur au final. C'est comme le feu qui n'est ni bon ni mauvais. Ça peut être bon si vous l'utilisez pour vous chauffer et mauvais si vous l'utilisez pour brûler votre maison. Bon, le numérique c'est un peu la même chose. C'est une technologie ultra puissante. Simplement si on ne l'utilise pas à des bonnes fins, ça peut donner des robots tueurs. Et si vous l'utilisez à des bonnes fins, ça peut aider à résoudre des tas de maladies, etc. Donc dans le travail qu'on avait commencé l'année dernière, avec Cédric, j'étais partie sur l'idée qu'on allait essayer de montrer aux gens ce tsunami écologique, qui était une évidence avec le réchauffement, mais les gens le voient sous l'angle du... Ils ont trop chaud l'été, ou trop froid l'hiver, ou il ne pleut plus, etc. Mais il y a d'autres problèmes qui arrivent, c'est les migrants, les problèmes d'eau potable, de nourriture, de ressources manquantes et tout ça. Puis la biodiversité. Bon. Et en fait, en faisant mon enquête, quand j'ai commencé, j'étais à ce moment-là à la Silicon Valley, c'était en novembre, en train de discuter avec mes jeunes entrepreneurs sociaux, justement, du manifeste. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que Trump a été élu. Et alors tout le monde est tombé de sa chaise, personne ne s'y attendait. Et donc j'ai essayé de comprendre, et grâce à tous ces réseaux, très vite, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui était à l'époque encore inconnu. C'est qu'on s'est rendu compte alors que Trump avait triché, entre guillemets, parce que son numéro 2, à l'époque, Steve Bannon, était quelqu'un qui avait deux entités. Donc déjà, lui, c'est quelqu'un qui se dit ouvertement d'extrême droite nazi. Donc il est contre les musulmans, contre tout ce que vous voulez, quoi. Et il est assez dangereux, en réalité. Et donc il possède deux boîtes. Une qui fait des fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles, de manière industrielle. Et ensuite, il a une boîte qui fait du big data, c'est-à-dire, c'est du numérique, mais c'est prendre les données et avec ça, faire des algorithmes qui calculent exactement ce que vous voulez et comment vous vous comportez, etc. Donc le patron de cette seconde boîte, qui s'appelle Cambridge Analytica, a déclaré publiquement qu'avec 64 likes sur Facebook, ils étaient capables de savoir absolument toute votre vie, quasiment. Votre orientation, votre couleur de peau, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre les libéraux, pour ou contre le féminisme, etc., etc. Et donc ce qu'a fait Bannon à l'époque, c'est qu'il s'est rendu compte que pour faire tomber Clinton, c'était plus simple de trouver le point qui ne plaisait pas dans son programme et de faire arriver sur le bureau de l'électeur américain exactement l'info qu'il fallait pour le faire douter. Voilà, donc quand vous avez des fake news de manière industrielle et une description précise de chaque électeur américain, c'est très simple de lui faire arriver par Facebook ou par d'autres vecteurs l'information qui va le faire douter de voter pour Hillary Clinton. Donc c'est ça, ce truc qui, moi, m'a frappé, ce tsunami-là. C'est-à-dire que ce problème-là est encore plus dangereux que le premier puisqu'il avait, il avait résulté dans l'élection de Trump et du Brexit. Donc simplement, le fait surtout, c'est que je ne porte pas de jugement, je porte pas de jugement politique sur la personne de Trump. Je parle de la manière dont les élections ont été truquées. Et c'est ça que je trouve dangereux. Ça veut dire qu'on peut manipuler l'opinion à des raisons politiques. Tant que c'était que pour vendre des chaussures ou un divan, à la limite, tant pis pour vous, mais ce n'est pas très grave, une arnaque sur des achats, bon, tant pis. Mais quand ça déforme les votes, ça devient dangereux. Et quand ensuite ça rentre dans des propos racistes et anti-juifs, anti-musulmans, ce que vous voulez, là, carrément, on a une bombe pour faire exploser une société. Et c'est là que je me suis dit, oulala, Cédric, là, tu vois, on a un deuxième tsunami beaucoup plus grave. Voilà. Et toujours sur le numérique, le troisième tsunami que j'ai identifié dans mes recherches, à l'époque, on parlait beaucoup d'IA et de Big Data, IA, intelligence artificielle, et de Big Data, mais les gens n'avaient pas encore vu arriver cette espèce de nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est devenue vraiment une machine extrêmement puissante. Donc cette IA, si vous voulez, dans le temps, l'IA, c'était un truc symbolique qui fonctionne sur des algorithmes assez lents. On appelle, par comparaison, c'est comme une grammaire, et la machine applique la grammaire. La nouvelle IA qu'on appelle neuronale ou machine learning, c'est une IA qui repose sur une machine qui avale toutes les big data qu'il y a devant elle. Elle ne fait aucune interprétation. Et simplement, elle essaye de trouver, de deviner ce que c'est qu'un chat. Et chaque fois qu'elle a raison, vous dites « bravo, voilà un bonbon ». Et donc, elle fait des milliards de tests. Et à la fin, à force de retenir ce qui marche, elle apprend ce que c'est qu'un chat. Donc, c'est comme un bébé, comme un nourrisson qui apprend au départ. Et donc, pour revenir à votre question, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette IA-là est au niveau de même pas un bébé humain. Elle est au niveau d'un ver qui a 302 neurones, ou peut-être éventuellement d'une souris qui en a 70 000. Nous, les humains, on en a 86 milliards. Donc, on n'y est pas en termes de nombre de neurones, mais n'empêche que sur des tâches très spécialisées, cette IA est déjà beaucoup plus efficace que nous, par exemple dans la reconnaissance de visage ou la reconnaissance de forme et plein d'autres choses. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que ce troisième tsunami, c'est ce que j'ai appelé le génie digital qui est sorti de sa bouteille, il est partout. C'est-à-dire qu'il y en a en Chine, il y en a dans les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc il y a des gens partout qui sont en train de faire des algorithmes pour avaler toutes ces big data, pour mieux deviner ce que vous allez faire. Donc si vous voulez, le risque, c'est que si ce génie digital atterrit dans les mains de gens comme Bannon, qui vous disent que des gros mots, le bébé va apprendre que des gros mots. Et à la fin, le bébé va devenir un monstre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé quand Microsoft a fait son premier objet en ligne qui était censé répondre aux questions des gens, au bout de 2 jours, ils l'ont débranché. Parce que la machine qui a tout appris sur le tas, elle est devenue xénophobe et raciste, en même pas 2 jours. Et donc la leçon de tout ça, c'est que l'IA, pour revenir toujours à cette idée de technologie qui n'est jamais mauvaise en tant que telle, mais que c'est les usages, tous les gens s'accordent à dire que l'IA peut être bonne si et seulement si il y a des humains à côté qui lui apprennent. Si on lui laisse apprendre toute seule sans contrôle parental, le nourrisson va devenir un monstre, ça c'est certain. Donc tout l'enjeu pour nous maintenant, c'est de passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence augmentée, dans laquelle les humains à côté vont prendre la main de la machine pour lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. etc.
Je pense aux images de deep learning, qui sont des représentations picturales de concepts ou d'idées par l'ordinateur. Quelle est la part de poésie? Est-ce qu'il y en a une dans ces images?
Alors, je ne connais pas très bien l'image dont vous parlez. Je pense que vous faites référence à ces images où on voit des tas de plateaux, de fils entremêlés, etc.
Ou alors des représentations. J'ai vu des images de reproduction de peinture réinterprétées par un ordinateur et qui utilisent tout un tas d'effets picturaux et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on y trouve sur l'original. Mais dans l'ensemble, on retrouve l'image.
Oui, alors ça, je ne connais pas trop, je dois avouer.
Oui.
Mais j'ai vu certaines choses qui m'ont intéressé, par contre. C'est que la question qu'on s'est posée à un certain moment, c'est est-ce que la machine pourra demain avoir des émotions ou avoir une créativité artistique? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire d'être créatif? Et c'est quoi l'art, d'ailleurs? Et donc, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la machine qui avale les big data, imaginez qu'elle a une base de données et on dit ça, ce mec est en colère. Donc tu vois, il est tout rouge, il crie, il dit des gros mots, c'est parce qu'il est en colère. Donc la machine enregistre colère égale ceci. Donc même si la machine n'est pas en colère, elle va être capable d'imiter des réactions comme s'il était en colère, vous voyez. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'elle a des émotions, même si c'est faux. Mais là, on retombe sur le même problème depuis le départ. C'est quoi l'émotion finale? Si vous avez un chien, un robot chien, et vous lui apprenez tout un comportement affectueux, même s'il n'a pas d'affection, vous êtes certain que les humains vont tomber dans le panneau, ils vont s'attacher à leur chien. Résultat, vous allez avoir un problème d'éthique. Parce qu'après, quand le chien va grandir, qu'il va tomber éventuellement en panne, la mamie ne va pas vouloir le jeter. Et pourtant, il faudra le recycler. Donc vous avez plein de problèmes qui se posent après sur à partir de quel moment le robot devient humain. Il y a des séries à la télé qui montrent très bien ce point-là, avec par exemple Real Human, c'est une série que je trouve vraiment excellente, ou l'autre Westworld, où il y a un monde où on peut tuer et violent sur des robots, etc. Et ça questionne vraiment la question de l'humain. Quand la machine ressemble tellement à l'homme, si on commence à faire du mal à la machine qui est tellement humaine, qu'est-ce qui empêche demain de faire pareil sur des humains? Donc c'est vraiment une première partie de la réponse. Et la deuxième, sur la création et sur l'art, moi j'ai vu effectivement des choses que les robots faisaient merveilleusement bien. Parce que finalement, si on dit que l'intelligence et la créativité, c'est simplement le fait de laisser des connexions se faire naturellement, bah cette machine, ce qu'elle fait, c'est plein de trucs au hasard, elle teste dans tous les sens, et puis à la fin, elle fait des connexions statistiques. Donc c'est possible que ces machines fassent de l'art qui soit réellement plaisant pour nous, les humains, mais simplement, comme c'est pas fait par un humain, il faudrait pas qu'à terme, il y ait plus que ça qui remplace la créativité humaine qui vraiment, elle, s'exprime de manière complètement ajaillie comme une source. Là, c'est l'inverse, la machine prend tout ce qui existe déjà et en tire des patterns, des schémas.
Donc si je comprends bien, avec tout ce que vous venez de dire, l'univers numérique a encore besoin d'une espèce de professeur, d'éducateur, et même, au niveau mondial même.
Tout à fait. Alors non seulement elle a besoin d'éducateurs dans les laboratoires, ça c'est très important, que dans les laboratoires il y ait des gens qui aient une éthique à côté de ces machines. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui qu'il faut vraiment poser aux fabricants, parce que c'est là que se trouve le risque de dérapage de Frankenstein, hein, c'est dans ces labos. Et la seconde, et c'est à mon avis ça le principal contre-feu, c'est les usagers. C'est les gens comme vous et moi qu'il faut former en leur disant, voilà, fais attention, quand tu likes, par exemple sur Facebook, tu apprends à la machine que ça c'est bien, donc, etc. Donc tous les usages que vous faites, rien n'est neutre. Tous les likes que vous faites, tous les tweets que vous faites, toutes les informations que vous donnez à la machine, elle les prend en pâture et elle les avale. Donc plus vous balancez sur le net des saloperies, des mots grossiers, etc., et plus l'ensemble du cerveau va devenir négatif. Et donc c'est là où je pense que c'est vraiment une urgence presque sanitaire, que les médias et les gens qui sont aux commandes éduquent le public sur les conséquences de liker des choses qui sont négatives et de commencer à comprendre que ce cerveau n'est que la somme de tous nos 7 milliards de cerveaux. Enfin, on n'est pas 7 milliards de connectés, mais mettons qu'on est 5 milliards. C'est la somme de ces 5 milliards qui crée cette chose qui peut devenir un monstre ou quelque chose de très positif. Et le patron, celui qui a créé l'Internet au départ, Tim Berners-Lee, il a dit en mars dernier qu'il était très inquiet pour son bébé et qu'à ce stade, aujourd'hui, son utopie était devenue quelque chose de pas terrible. Il a dit, voilà, ce truc est devenu un truc antidémocratique parce que les gens s'isolent dans leur bulle de filtre en ne likant que des choses qui leur plaisent. Donc ça veut dire que quand vous n'aimez pas le poste de quelqu'un, vous l'éliminez. Donc vos amis sont forcément des gens qui pensent comme vous. Et comme ils vous renvoient que des textes comme vous aimez, vous restez de plus en plus isolé dans votre petite bulle. Et Google fait la même chose. Puisque leur but, c'est de vous garder sur leur plateforme, Google va se démerder pour vous envoyer les informations que vous voulez lire pour être sûr que vous restiez sur lui. Sinon, si vous n'êtes pas content, vous swappez et c'est fini. Donc toutes ces machines sont conçues pour vous garder prisonnier de vos propres illusions. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu à ce qu'on éduque le public et pas seulement les gens dans les labos, les usagers aussi.
Si je comprends bien, donc le numérique à l'heure actuelle est comme une éponge qui absorbe, et qu'est-ce qu'on va en faire si on les sort ? Qu'est-ce qui va en sortir ?
Je ne pense pas qu'on puisse les sourire au sens où ce qui va en sortir, c'est nos usages au final. Et ce que je dirais plutôt, c'est que, comment dire ça ? L'image, c'est comme une espèce de grand cerveau qui nous connecte tous. Donc tout dépend de ce qu'on considère important pour le bien collectif de l'humanité. Soit on dit, moi je m'en fous, je vis ma vie, je me déconnecte. Terminé, le numérique, pour moi, c'est fini. Et je vis ma vie dans ma ferme, avec mes légumes et tout ça. Soit je dis, moi, j'ai une responsabilité citoyenne par rapport à ce cerveau, et je vais alerter tous les gens qu'il faut, pour être sûr que la manière dont on informe la machine soit pas un truc qui se retourne contre l'espèce humaine à terme. C'est pour ça que le crapaud fou a une posture extrêmement simple. Nous, ce qu'on dit, c'est que, quelle que soit l'entrée, écologique, l'information dont je vous ai raconté cette histoire de, on va dire, de Trump et de post-vérité, et ensuite, la troisième chose qui est ces objets partout, eh bien, à cause de ces trois menaces qui potentiellement peuvent faire de l'espèce humaine une espèce asservie ou en tout cas beaucoup moins libre qu'elle ne l'a été dans le passé. Moi, je pense que par rapport à ça, le crapaud, c'est l'idée de dire vous pouvez tous faire quelque chose si vous voulez. Si vous avez envie, si ce message vous touche, venez voir ce qu'on fait et puis vous trouverez des gens qui pensent comme vous. On n'est pas une organisation, on n'est pas une asso, il n'y a rien. Il n'y a que des bénévoles et moi-même qui écris ce bouquin, c'est tout. Et on donne ça un peu comme une chasse au gaspille ou un touche pas à mon pote. On dit voilà, c'est un truc de culture. Si vous comprenez ce message et que ça vous touche, il faut en parler autour de vous. Et ensuite, ensemble, on va trouver des moyens de pouvoir faire face à ces trois tsunamis. Donc voilà, moi je ne pense pas que le numérique, on puisse le presser comme une éponge. Je ne vois pas qui le ferait particulièrement. Je pense que chacun tire son éponge dans son coin. Les GAFAM, chacun, ont une grosse partie de l'éponge. Aujourd'hui, il y en a trois. Hein. C'est surtout Google, Amazon et Facebook. C'est ces trois-là qui ont 70% du circuit sur Internet. Et donc ces trois-là, à travers le web, à travers l'accès au web, pardon, les mails, etc., ils contrôlent déjà une grosse partie de ce cerveau. Donc à nous de décider si on veut ou pas se battre pour ce cerveau planétaire. Moi, personnellement, je trouve que c'est un enjeu très important.
Et puis, on va revenir un petit peu. Vous avez tout dit par rapport au manifeste ? Ou vous avez encore
Non, je ne pense pas avoir dit tout. Je crois que le message le plus important que je voudrais faire passer, c'est quand on a commencé cette aventure avec Cédric Villani, on pensait surtout comment alerter les gens sur ce problème et toucher les 90% de gens, ou au moins 50%, qui ne se sentent pas concernés par les menaces. Donc, avec ces trois tsunamis, on n'était plus à 5% de gens, parce que c'est plus écologiste uniquement. On touchait les gens qui sont soucieux de la vérité, de l'information. Donc les scientifiques, les profs, l'école, les citoyens qui aiment bien s'informer. Et puis par rapport à l'IA et les robots, etc., on touchait encore une autre frange de gens qui sont inquiets de voir leurs enfants complètement scotchés à l'écran et la question du libre arbitre et quel type d'humanité on aura demain. Et donc partant de là, je pense qu'on a réussi une première chose qui était d'alerter sur le fait qu'il y a vraiment des menaces beaucoup plus que 5% de gens, mais 50% de gens sont concernés par ces problèmes-là. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? Et là, dans le manifeste, au mois d'avril, Cédric est parti en politique, donc je ne l'ai plus revu à partir de ce moment-là du tout. Il nous a laissé les clés, on a travaillé seul, et j'ai fait à ce moment-là venir 34 crapauds fous, qui étaient des gens avec qui j'avais déjà monté des choses comme ces éco-quartiers, tous ces mouvements de l'économie sociale et solidaire, ces entrepreneurs sociaux, bon, tout ça ensemble de 21 à 75 ans. Et là-dedans, on avait les anciens qui ont fondé l'Europe à l'époque, et beaucoup de grands penseurs, et on a tout mélangé. Et pendant une semaine, on a essayé de demander à chacun de donner le meilleur de ce qu'il avait à dire pour proposer des solutions à tout le monde. Et ce n'était pas du tout un travail de prosélyte ou quoi, c'est chacun donner ce qu'il avait de mieux à proposer, et libre ensuite aux gens de choisir là-dedans ce qu'ils veulent. Et moi, derrière, j'ai fait un gros travail de compression, d'harmonisation, de tirer le fil conducteur de cette affaire. Et ça donne ce livre qui a été produit donc, en octobre, dans lequel vous avez, en gros, les deux tiers sont des trucs assez concrets pour dire aux gens « voilà ce que vous pourriez faire si ça vous intéresse ». Voilà, donc ça c'est important de le dire, il y a vraiment une volonté de donner aux gens des clés pour se mettre en action. Mais la troisième chose que je voudrais dire également, c'est que c'est pas du tout une action politique avec des projets, du consulting, pas du tout. C'est vraiment un livre culturel, je veux dire. Et là, le point qu'il faut comprendre, c'est que avec d'autres, on est convaincu aujourd'hui que le changement ne peut plus se faire avec des processus top-down. Ça ne peut pas venir d'en haut. Le changement à une telle échelle ne peut venir que de la base, donc par une culture. Mais le problème, c'est que quand vous voulez changer la culture, c'est compliqué. Comment vous faites ça? Surtout avec des médias qui visent une onde de sottise. Et donc, on a regardé le problème et on s'est dit, voilà, il y a une méthode au milieu qui s'appelle les cohortes. C'est-à-dire, si vous voulez faire le changement, vous rassemblez des gens qui ont localement, par exemple ici, pourquoi pas à Die, et autour de, en tout cas, de Valence, on a commencé avec l'équipe ici, de rassembler des gens, 20-30 personnes, comme nous on a fait pendant une semaine, et de vraiment partager ensemble ces menaces, et ensuite de voir qu'est-ce que chacun peut donner le plus par rapport à ces problèmes, mais passer d'abord du temps à se synchroniser, parler de soi, se comprendre, vraiment faire une culture commune. Et seulement une fois qu'on a ça, alors on identifie des projets qu'on peut pousser, et c'est parce qu'on a déjà ce premier temps de synchronisation qu'on a une chance que la cohorte fonctionne. Et l'idée, c'est que plus il y a de cohortes partout qui se coordonnent comme ça, et plus, comme à la façon de Los Angeles, on pourra faire passer des bonnes idées au niveau du public. Et là, donc, nous, ce qu'on dit quand on est crapaud, c'est simplement, si vous voulez faire crapaud, d'abord, vous pouvez lire le bouquin, c'est simple, ou aller sur le site internet, crapaud-fou.org. Et l'idée, c'est simplement, pour faire crapaud fou, il n'y a que trois choses. Un, reconnaître l'urgence. Déjà, si vous ne pensez pas que c'est urgent, ben, ce n'est pas la peine. Deux, accepter la diversité et l'embrasser. C'est-à-dire ce que je vous ai dit sur les atypiques, ceux qui sont au bord, quelle que soit leur forme d'intelligence, tout ça, ça a une valeur. Donc si vous acceptez ça, vous acceptez de parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous dérange parce que vous pensez qu'il a tort, vous n'aimez pas les gens riches, vous n'aimez pas les gens pauvres, vous n'aimez pas les gens bronzés, etc. Bon, laissez tout ça au placard et essayez d'accepter l'autre dans ce qu'il a à apporter. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Et la troisième, c'est de dire, à ce moment-là, je fais un pas positif, quel qu'il soit, et surtout, je le partage dans la mare. Pourquoi ? Parce que quand vous postez un truc positif dans la mare à crapaud qu'on a mis en place, ça permet aux autres de dire, tiens, lui, je pense comme lui, je vais l'appeler. Et ça connecte de manière totalement imprévue des gens un peu partout, et c'est cette idée que ça peut commencer à faire une cohorte. Donc vraiment, l'intérêt, c'est que tant que vous ne vous manifestez pas en disant, hey, moi, j'ai envie de faire ça, c'est impossible de vous repérer. Donc c'est l'idée, juste le premier pas. Après, une fois que vous nous aurez rejoints, peut-être qu'il se passera des choses ou pas, c'est totalement libre, il n'y a aucune obligation, moi je ne suis surtout pas un chef, rien du tout. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui ont rejoint en une semaine, on a ouvert le site, il y a déjà plus de 150 personnes qui sont venues dire des choses, il y a déjà des noyaux qui se créent par exemple sur la diversité, d'autres qui se sont créés autour de l'éducation, etc. Et donc c'est vraiment cette idée qu'après, libre à vous avec ces gens-là de partir en cohorte, ou de rejoindre les Colibris, ou de rejoindre les Unamap, ou de rejoindre d'autres choses, mais du coup si vous n'êtes pas seul, vous avez plus de chances d'arriver à faire quelque chose. Sinon, restez dans votre coin à attendre, vous êtes sûr de ne pas pouvoir, en tout cas, redevenir acteur de ce monde qui arrive.
Merci, Tan Nguyen, d'être venu nous parler. Est-ce que la Drôme aura la chance de vous revoir prochainement ou l'année prochaine ?
Alors, j'espère bien que ce sera avant l'année prochaine. En tout cas, donc, ça fait la quatrième fois que je viens et il y a eu hier 210 personnes, je crois, dans la salle. Et des gens qui étaient déjà venus trois fois. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, on a identifié, donc, dans le groupe Noyau, il y a une dizaine de personnes qui sont très engagées physiquement en Drôme. Michael ici présent, Michael Bérébi par exemple, il y a également les gens de Rodanim, il y a la chambre de commerce et d'industrie avec Karine et d'autres, je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a vraiment un noyau fantastique qui s'est créé autour de cette approche, on a vraiment envie de faire des choses ensemble, donc eux seront les référents locaux qui pourront recevoir les gens qui ont envie d'avancer et de voir des visages physiquement. Ensuite, de l'autre côté, vous pouvez me contacter sur crapaud-fou.org. Et puis la troisième chose, c'est qu'ensemble, on s'est dit qu'à partir du moment où il y a des gens qui demandent et qui ont une certaine appétence, on va proposer une rencontre dans la Drôme, ça c'est sûr. Alors je ne sais pas si c'est dans quelques mois, en tout cas j'espère avant l'année prochaine, j'espère quand il fera plus chaud. Et à ce moment-là, on pourra accueillir tous les crapauds qui ont envie de faire un peu crapaud fou. Et là, on pourra commencer à coasser, et faire des cohortes, etc., etc.
Eh bien, merci Tan, et puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous aussi.
Interview.
Okay, bye-bye.